Je réponds tout de suite à la question posée. Au cours précédent, vous avez montré la différence entre le biologiste qui regarde les conditions de vie et le philosophe qui regarde les causes de la vie. Pourriez-vous préciser la différence entre les conditions nécessaires, sine qua non, pour que telle réalité existe? Oui, condition dans le sens de conditionnement plus que condition, dans le sens où vous mettez ici condition sine qua non, on va voir. Et la cause, la détermination qui permet telle réalité d'exister. Vous voyez, au fond, le biologiste, comme le savant habituellement, regarde le conditionnement d'un être. Il mesure ses réactions. Il essaie de saisir ce que ça représente au point de vue de ce qu'on peut mesurer. C'est ce qui est directement mesurable. Il essaie d'étudier la manière dont le vivant se présente à nous. Il essaie d'analyser tous les éléments nécessaires et toutes les conditions nécessaires pour que la vie apparaisse. Alors, tout cela se prend du côté de la matière. Comme dit saint Thomas, ex parte materiae, c'est de l'ordre de la disposition. Ça se prend du côté de la matière. C'est le point de vue, si vous voulez, du fondement d'un être vivant. Et c'est tout le point de vue matériel de l'être vivant. Et dans cet ordre-là, il arrive à des précisions que le philosophe n'a pas. Il arrive à préciser beaucoup plus que le philosophe. Forcément. C'est pas ça que le philosophe regarde en premier lieu. Le philosophe essaie de comprendre ce qu'est le vivant. Le vivant dans sa complexité et dans son unité. C'est ça qui intéresse le philosophe. Et le philosophe, c'est pas tellement le vivant, le petit chien ou le gros chien. C'est l'homme. Je sais très bien que pour le biologiste aussi. Quoique le biologiste, lui, regardera d'une certaine manière tous les vivants. Il pourra faire des expériences sur l'animal et puis il essaiera de voir ensuite si chez l'homme ces expériences seront semblables. Vous voyez, il y aura au fond ce souci d'unifier. C'est l'aspect générique du vivant qu'il regarde. Le philosophe regardera beaucoup plus et essaiera d'atteindre beaucoup plus le caractère de détermination propre de l'homme. C'est l'homme qui l'étudie. Il est dans une situation privilégiée pour étudier l'homme parce qu'il peut réfléchir sur l'expérience que l'homme a de sa propre vie. Tandis que je n'ai pas de l'expérience de la vie du chien. Je transpose quand le chien pleure, quand il me voit partir, n'est-ce pas ? Et qu'il pleure amèrement, je dis oui, il m'est très très attaché. N'est-ce pas ? Ou quand il me lèche la main, il m'est très très attaché. N'est-ce pas ? Je transpose, parce qu'il ne me dit pas. Je transpose en ce sens que je sais qu'il y a des impulsions comme ça, qui me donnent des attitudes semblables. Mais je n'ai pas conscience. Tandis que j'ai conscience de ma souffrance, de ma joie, de l'amour que je peux avoir pour quelqu'un. Alors, on arrivera petit à petit, il faut se poser ces problèmes-là. Je les ai posés au point de départ parce que c'est nécessaire de les poser, mais il faut se les poser de plus en plus. Quelle différence de regard du biologiste et le regard du philosophe? Ce ne sont pas deux regards opposés, hein. Ce sont deux regards complémentaires. Parce que le biologiste, lui, regardera le comportement et essaiera de voir les éléments qui sont impliqués dans ce comportement, les conditions nécessaires à ce comportement, comment pouvoir avoir un comportement analogue et retrouver un comportement analogue, et il refera l'expérience et l'expérimentation, tandis que le savant, le philosophe, lui, il part de l'homme, et il veut savoir ce qu'est l'homme, comme vivant. Un aspect de l'homme, c'est pas tout l'aspect de l'homme. L'anthropologie philosophique va beaucoup plus loin que la philosophie du vivant. Mais c'est un aspect de l'homme. Il est le vivant par excellence. Parmi tous les vivants que je constate, l'homme est le vivant le plus parfait. Et puis, j'ai un privilège spécial vis-à-vis du vivant que je suis, c'est que je peux me tâter le pouls intérieurement. Je peux savoir exactement ce que, du moins, j'essaie de comprendre un peu ce que je suis. au milieu de ma complexité de mes sentiments, je peux essayer de comprendre qu'il y a quelque chose qui réagit dans tel ou tel sens. Oui, et c'est au fond cela, c'est pour ça que le regard est très très différent. Je vous ai dit cette expérience qu'il faut tous faire, parce que c'est important. Pourquoi le philosophe ne prend pas les mêmes expérimentations que le biologiste? Pourquoi de fait n'emploie-t-il pas les mêmes méthodes? Alors, il y a des raisons, vous allez me dire, historiques, non. C'est pas parce que la philosophie est née avant la science que la philosophie ne doit pas se dire « je vais me faire scientifique ». Science dans le sens moderne, quoi. Non, le philosophe considère qu'il a quelque chose à garder d'unique. Il ne nie pas la science. Il la respecte. Ça l'intéresse. Et constamment, il y a des problèmes qui vont se préciser grâce aux savants. Mais il ne se met pas à sa remorque. Il ne fait pas une métabiologie pour entrer dans la philosophie. Et c'est au fond cela le point de vue le plus difficile, vous voyez. Quand on compare un peu les deux, il faut voir que le point de départ n'est pas le même, que la recherche n'est pas la même, les lois biologiques ne sont pas les causes et les principes. Alors ça, c'est un problème très délicat, très important, de regarder que les lois biologiques ne sont pas les causes et les principes. Et la finalité du regard du philosophe et la finalité du biologiste n'est pas non plus la même. Oui. Alors, c'est ça qu'il faut essayer petit à petit d'arriver à préciser. Les lois, on comprend un peu, puisque les lois, c'est toujours un rapport et une constante nécessaire entre un antécédent et un conséquent, tandis que le principe et la cause, c'est quelque chose d'indivisible. C'est quelque chose de premier. Tandis qu'une loi n'est jamais quelque chose de premier. Les lois se modifient. Je peux modifier et approfondir ma connaissance de l'âme, mais ma connaissance de l'âme ne va pas se modifier en disant c'est l'âme du XXe siècle, c'est l'âme du XIXe siècle, c'est l'âme du XVIIe siècle. Non, en saisissant l'âme, je sais que je saisis quelque chose qui demeure, qui est la même saisie que, analogue évidemment, la même saisie qu'Aristote faisait, que saint Thomas faisait. Et que nous faisons nous, même si les uns sont biologistes et les autres ne le sont pas, ce sera la même âme. Et c'est ça qui est intéressant et difficile. Hein. Je suis tout à fait d'accord que ce sont des problèmes très difficiles, parce que ce sont des problèmes qui ne sont pas commodes et qui sont au fond peu traités. Oui.
Est-ce que le psychologue ne peut pas dire quelque chose de plus par rapport...
Que le biologiste, il dit autre chose, mais c'est dans la même chose, c'est encore science biologiste. Les sciences psychologiques sont des sciences psychologiques. Et qui regardera le conditionnement. Oui. Et il y a une philosophie du vivant qui est autre chose. Vous voyez, dès qu'on verra les degrés de vie, on verra tout de suite où les sciences se sont développées. Vous voyez. Maintenant, je regarde en bloc. Alors, je regarde le biologiste parce que c'est la première chose qu'on regarde. Vous voyez. Mais on verra progressivement, dès qu'on essaiera de comprendre qu'est-ce que c'est que les degrés de vie, et comment découvrir les degrés de vie, on verra que parallèlement à chaque degré de vie, il y a un développement des sciences particulières. Oui. Alors là, vous verrez la place de la psychologie. Mais pour le moment, je cherche ce que c'est que l'âme. Le psychologue ne peut rien dire de l'âme, et le biologiste non plus. Alors là, vous pouvez tout de suite, du côté de l'extension, comprendre. Or, les traditions religieuses, voyez, si vous voulez poser le problème de cette manière-là, parce que c'est quelquefois plus facile à saisir. Donc, les traditions religieuses me parlent de l'âme, avec des noms divers, hein, c'est évident, selon les noms de ces traditions. L'âme et du corps. Et on parle souvent, on pose le problème de l'immortalité de l'âme. Or, la biologie, les sciences biologiques ne me parlent pas de l'âme, ne parlent que du corps vivant. Je ne peux pas découvrir l'âme, je ne découvrirai jamais l'âme. Pourquoi ? Parce que l'âme n'est pas mesurable. Je ne peux pas saisir l'âme, l'âme n'est pas mesurable comme telle. Si l'âme existe, on va essayer de préciser, si l'âme existe, elle n'existe que comme une source. Caché, invisible, indivisible. Tandis qu'au contraire, tout ça, c'est le mesurable. peut mesurer d'une manière ou d'une autre. Bon. Le psychologue, lui, non plus ne peut pas parler de l'âme. Il parle là de mes états psychologiques, de mon équilibre psychologique, de mon déséquilibre psychologique, de mon psychisme. Vous voyez, le psychisme, c'est pas l'âme. Le psychisme, c'est très difficile, il reste après le domaine du psychisme. Hein. Je suis de bonne humeur ce matin, heureusement pour vous. Et, au contraire, je pourrais être de mauvaise humeur. Non ? Alors, on supporte les conséquences. C'est du psychisme, ça, d'être de bonne humeur, de mauvaise humeur. C'est pas mon âme. Mon âme n'est jamais de mauvaise humeur. C'est ça qui est extraordinaire. Tandis qu'un psychisme, oui, peut-être un psychisme délabré, c'est qu'il y a des moments où ce sera difficile, discontinu, pas commode du tout. Alors mon psychisme, c'est pas le corps vivant, c'est autre chose. C'est tout un domaine de l'imaginaire. Quand je dis imaginaire, je ne veux pas dire du tout que ça n'existe pas. C'est dans l'imaginaire que de fait vont se trouver les noyaux de différentes relations, des passions, des connaissances que je peux avoir au point de vue sensible et d'imagination. Et puis tous les vies de commande, il y aura des réactions violentes, comme quelqu'un me dit « Ah, j'agis de cette manière-là, c'est absolument inconscient pour moi et c'est involontaire. » Quand je vois une bouteille, qu'un seul désir, c'est de l'acheter par terre. Très bien, c'est un peu dangereux. Bien. Quand je vois un fauteuil, c'est vrai, ça existe, des gens comme ça. Ils vivent dans un aspect absolument d'autre point de vue volontaire. Il y a des réactions immédiates, violentes, ou des réactions de tendresse extraordinaires. Je te vois, je t'embrasse. Immédiatement. Viens, je vais te casser la gueule. C'est aussi direct que ça. C'est le concupiscible de l'iracide dans l'imaginaire. Un domaine extrêmement complexe, d'une complexité invraisemblable, la complexité de l'imaginaire. C'est une complexité. Alors vous tirez certaines ficelles pour arriver à découvrir un certain ordre là-dedans. Et vous procédez par mode inductif. Vous essayez de voir telle ou telle réaction. Tiens, j'ai eu cette réaction ce matin, à cause de ça. Tiens, ce soir, telle autre réaction. Vous voyez, quand je vois la manière dont Freud a élaboré au point de départ, c'est très intéressant, ça. Comment il a essayé d'entrer dans tout ce terrain mouvant, terriblement mouvant. On se risque de s'être enlisé. Alors, c'est autre chose, vous voyez, et c'est ça que nous allons essayer de saisir. La philosophie, elle est née après les traditions religieuses. Elle est née avant la biologie et la psychologie. Du temps d'Aristote, il n'y avait pas de biologie scientifique. Mais il existait la médecine. Vous ne pouvez pas oublier la médecine. Le père d'Aristote était médecin. C'est pour jamais l'oublier. La médecine existait. Elle existait comme un art. C'était un art, la médecine. Un art pour aider la santé. Puis là-dessus est née la science biologique, la science psychologique. Et la médecine demeure toujours. Quand vous voyez un biologiste qui est un savant et qui est en même temps un médecin, il vous dit « Je suis avant tout médecin ». Et ça correspond à quelque chose. Vous savez très bien. Je suis avant tout médecin. Je connais la science biologique, je connais les sciences psychologiques, mais je suis avant tout médecin, un thérapeute. Donc, il est du côté de l'art. Parce que c'est l'individu qui l'intéresse. La médecine, c'est les lois. Je veux dire, la science, c'est les lois. Alors que la médecine, comme art, c'est l'individu. C'est l'individu. On est attentif à l'individu. C'est ça qu'on cadre. On a tel individu et chaque fois, c'est différent. Il y a des cas analogues, des petits casements un petit peu, on met une étiquette dessus. Ah oui, je reconnais cette maladie. Oui, mais chaque fois, c'est un peu différent. Ça ne peut pas être autrement. Et donc, si on est un très bon médecin, on sera un artiste. Et on saura dépasser les méthodes. Alors qu'un pauvre médecin, il sera les méthodes. Vous savez, comme dans l'île de cuisine, on fait comme ça. Alors on appliquera la méthode, puis. Et le malade pourra crever d'autre chose. Parce qu'on aura appliqué la méthode, on n'aura pas vu. On sera déterminé là-dedans. Quand vous regardez les Freudiens, c'est très net. Ils ont leur méthode. Ouais, ils ont leur méthode. Mais ce n'est pas ça qu'il faut. Un véritable artiste, il a des méthodes, mais il sait très bien que sa méthode est au service de son art. Un artiste qui mettrait son art au service de sa méthode, ça justement, ça prouve que ce n'est pas un artiste. Le véritable artiste met sa méthode au service de son art. Il met tous ses mots au service de son art. La médecine, c'est un art. Avant tout, qui présuppose des lois, qui présuppose des méthodes, très très bien, mais c'est un art. Et le point de vue psychologique, le thérapeute au niveau psychologique, il y a des lois psychologiques, il y a des lois assez tremblantes, n'est-ce pas ? Mais il y a des lois psychologiques quand même, il y a des constantes. C'est constante, qui est à peu près qu'on peut trouver, mais le véritable thérapeute, il est un artiste. Il attendra, il cherchera pour essayer de découvrir. C'est ce que le haut Moyen-Âge, du reste à la suite des Grecs, on appelait l'ars adjuvans naturam. Ce sont des arts qui aident la nature. Ce sont des arts qui ne sont pas les beaux arts. Non, parce que c'est les arts qui aident la nature. Autrement dit, on tient compte très très fort de la matière vivante devant laquelle on se trouve. Et on doit s'adapter à cette matière. Et donc c'est un art qui présuppose la connaissance, qui présuppose autre chose. Eh bien, la philosophie n'est ni l'art, ni la science biologique, ni la psychologie. Elle est autre chose. Et elle n'est pas les traditions religieuses. Mais elle tient compte des traditions religieuses. Alors que la biologie scientifique ne tient absolument aucun compte des traditions religieuses. L'artiste médecin tient compte des traditions religieuses, s'il est un bon médecin. Vous êtes musulman, vous êtes telle ou telle religion, ça joue. Il y a des répercussions au niveau psychologique. Fatalement, il y aura des répercussions, des retombées atomiques là-dessus. Donc il faudra faire attention. Il y aura des retombées, ça ne peut pas être autrement, parce que ça joue. Alors on tient compte, mais pas la biologie n'a absolument pas les traditions religieuses. Elle s'élabore absolument en dehors. Oui. Alors c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est de voir comment la philosophie va naître à partir des traditions religieuses. Elle n'est pas les traditions religieuses. Il y a deux choses avant la philosophie, tradition religieuse et l'art. La médecine vient en troisième lieu, quatrième lieu et cinquième. Les naissances successives. C'est intéressant parce que c'est les terrains qui restent et qu'il faut élaborer, qu'il faut découvrir. Alors, le philosophe, vous voyez, à la différence du savant qui cherche les lois, le philosophe va chercher qu'est-ce que c'est que ce vivant qui est l'homme. C'est l'homme qui l'intéresse. Toujours. Et comme les traditions religieuses parlent de l'âme et du corps, le philosophe va quand même se poser la question, est-ce que de fait on peut parler d'une âme, on peut parler d'un corps? Qu'est-ce que ça représente? Y a-t-il un dualisme, dans ce qu'on va appeler un dualisme, ou y a-t-il au contraire deux principes qui sont ordonnés l'un par rapport à l'autre, mais il y a l'unité du composé, l'unité du vivant. Il doit se poser ces questions-là, vous voyez, et c'est intéressant parce que c'est ça qui est sous-jacent à son enquête. Il se pose ces questions-là. Le philosophe reconnaît que le vivant a une unité. Que l'homme vivant a une unité. Je dois reconnaître que j'ai une certaine unité en moi. Et que si je suis trop fatigué, bah oui, mon intelligence ne fonctionnera pas tout à fait de la même manière. Mes réactions seront plus violentes. J'aurai moins de contrôle si je suis trop fatigué. Si je prends un peu de recul, au contraire, oui, ça revient. C'est agréable. On est dans un état euphorique plus facilement que quand on est tendu. Donc on voit bien l'unité. On voit que c'est plus difficile de spéculer, de faire de la philosophie post-shiboum, comme on voit, c'est, même si le repas est léger, c'est quand même post-shiboum, c'est un peu plus dur. Et si vous avez pris un très très bon repas, alors évidemment, la métaphysique, elle est complètement en situation limite. N'est-ce pas ? Devant le rôti qu'on a pris. Parce que c'est quelque chose qui est difficile, on a besoin d'une certaine légèreté. C'est très vrai, ça, c'est très vrai. Une ascèse au niveau philosophique, comme une ascèse au niveau religieux, qui est normale. pour ça qu'on est dans un climat merveilleux de spéculer quand de fait on a des repas qui ne sont pas trop lourds, suffisants, mais suffisamment de sommeil aussi. Parce que si le sommeil n'est plus là, au point de vue de l'intelligence, hein, on peut beaucoup plus facilement diminuer le sommeil par rapport à des efforts physiques que par rapport à des efforts intellectuels. L'effort intellectuel demande que le sommeil ne soit pas trop diminué. C'est pour la grande assaise, le sommeil. C'est l'assaise la plus difficile. C'est plus facile l'assaise sur la nourriture que l'assaise sur le sommeil. Parce que il y a une répercussion vis-à-vis de l'intelligence qui est beaucoup plus grande. Bon, on constate ça. Tout ça, c'est des constatations qui sont très intéressantes pour comprendre l'unité du vivant. Je constate ça. Je constate l'unité et puis je constate la complexité. Ce n'est pas seulement du côté de l'imaginaire, mais je constate la complexité des opérations vitales. Que nous avions vu la dernière fois. Je ne crois pas ça. Unité, complexité. Je crois que ça, c'est la grande expérience qu'on doit avoir. On doit comprendre qu'il y a en nous une complexité vitale extraordinaire, facile à comprendre. Et puis, une unité qui est très grande. C'est ça, je le constate aussi chez les autres animaux, mais je le constate chez moi, je le constate dans l'homme. Et je dirais que l'unité de l'homme est encore plus grande que celle de l'animal. Les anciens étaient très frappés de ça, c'est qu'un ver de terre, on pouvait tout en deux et continuer d'exister. Alors, s'ils constataient ça, ils disaient que c'est un vivant tout à fait élémentaire. Alors, on voit très bien qu'ils sont complexes à la quantité, mais l'unité est moins forte. C'est plus difficile de faire ça pour le vivant. C'est plus difficile de mettre la tête d'un côté et puis essayer de voir s'il n'y a pas deux vivants comme ça, procéder de division, pour multiplier les gens. Mais ça peut se faire pour les vivants inférieurs, de vie végétative, mais dès qu'il y a une vie sensible, c'est beaucoup plus difficile. Dès qu'il y a une vie animale, une vie, et puis encore beaucoup plus la vie spirituelle. Autrement dit, plus la complexité est grande des opérations vitales, plus l'unité est forte. Complexité et unité vont ensemble. Et ça, c'est une chose très importante, parce que ça montre la qualité du vivant. Ça montre la domination, si vous voulez, de ce que représente la vie par rapport à l'aspect de la quantité, la complexité, la multiplicité de mes opérations. Et puis, en même temps, une unité toujours plus grande. Et ça, je crois qu'on peut le constater. Nous pouvons constater ça. Constate qu'il y a cela. Alors, il y a des moments où l'anarchie est particulièrement grande, surtout du côté de l'imaginaire, parce que l'imaginaire est essentiellement anarchique, ça nous le verra. Tandis qu'au contraire, le vivant, lui, implique une certaine unité substantielle de vie. Une unité substantielle de vie. Unité qui fait qu'il se développe d'une façon organique et d'une façon qui soit vraie, profonde. Je me pose donc la question, comment se fait-il cette unité, cette complexité? Mais c'est là ce qu'on appellera l'induction de l'âme. Il y a une induction de l'âme. Une induction de l'âme, ça consiste justement à comprendre que cette complexité et cette unité que je constate impliquent nécessairement deux principes. C'est là le point de vue de l'analyse philosophique. Vous voyez, l'analyse philosophique commence avec le point de vue de l'induction. Et le procédé inductif est typiquement philosophique. Il y a une induction baconienne, faisons attention. L'induction baconienne n'est pas du tout l'induction philosophique. L'induction baconienne, c'est celle qu'on connaît habituellement au point de vue scientifique. Alors l'induction baconienne est d'ordre quantitatif. Vous multipliez les choses, vous voyez qu'il y a toujours les mêmes effets, donc il doit y avoir quelque chose. Vous voyez, les statistiques sont à base d'induction baconienne, ça c'est sûr. Vous répétez les choses, vous répétez indéfiniment, vous voyez, donc il doit y avoir un lien. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous ne saisissez qu'un lien. Et vous n'allez pas plus. Vous saisissez un ordre. Mais l'induction philosophique va plus loin parce que vous interrogez en voulant connaître ce qui est à la source de cette unité. Qu'est-ce qui explique dans cette complexité cette unité? Comment se fait-il que toutes ces opérations si diverses que j'ai depuis le matin jusqu'au soir, je me suis réveillé ce matin, un phénomène très extraordinaire, n'est-ce pas? Il y a 6 heures. Je me suis réveillé ce matin à 6 heures et je me suis dit, bon, c'est moi qui me suis endormi hier au soir. A-t-elle... Je ne suis pas resté très longtemps devant cette interrogation, mais j'aurais pu me dire, est-ce que c'est bien moi? Est-ce que c'est bien le même bonhomme, ça? C'est hier, je suis endormi, j'ai eu beaucoup de peine à m'endormir, et puis ce matin, beaucoup de peine à me réveiller. Ou bien au contraire, beaucoup de facilité à me réveiller, puis beaucoup de peine à... C'est le même bonhomme qui a dormi et qui se réveille. Et dès qu'il se réveille, il organise un peu sa vie. Dès qu'il se réveille, il s'aperçoit qu'il y a toutes ces diverses opérations qui sont... Tout ça, il y a une unité, c'est moi. C'est moi ce vivant. Alors, je me pose la question, pourquoi cette unité? Pourquoi cette unité? Je ne me pose pas la question, comment cette unité, mais pourquoi cette unité? Qu'est-ce qui fait l'unité du vivant? Il doit y avoir un principe de vie radical qui explique cette unité. Ce principe de vie radical, qui est nécessaire puisque j'ai constaté cette unité, ce principe radical, je dis, c'est l'âme. Ah, vous voyez, alors là, comprenez bien, le mot âme n'est pas une découverte du philosophe, comme le mot Dieu. Le mot âme est une découverte des traditions religieuses, très important aujourd'hui. Parce que vous savez bien que dans un certain contexte, on n'accepte plus la distinction de l'âme et du corps. Dans certains contextes, qui sont des contextes multiples et divers, hein, je me souviens avoir entendu ces choses-là dans deux contextes différents que je peux citer ici, puisque c'est à titre d'exemple que je le prends. Premier exemple, c'était à Lausanne, tous les disciples de Monsieur Thévenin, du professeur Thévenin, qui tous étaient saisis par la philosophie de Merleau-Ponty, et selon la philosophie de Merleau-Ponty, donc selon la phénoménologie de Merleau-Ponty, il n'y a pas de distinction de l'âme et du corps. La distinction de l'âme et du corps est périmée. Pourquoi? Parce qu'on bâtit tout sur la conscience. Et c'est vrai, on bâtit tout sur la conscience. Alors, je n'ai pas conscience d'avoir d'un côté mon âme et de l'autre côté mon corps. C'est dangereux, cette conscience-là. C'est déjà dangereux. J'ai mon âme qui se balade, vous voyez. J'ai une âme qui se promène, qui plane, et mon corps qui reste bien assis. Alors ça, c'est très dangereux d'avoir cette espèce d'expérience de ce dualisme entre l'âme et le corps. Je n'ai pas l'expérience de la séparation de mon âme et du corps. Vous voyez, même si vous avez fait ces expériences très curieuses qu'on raconte aujourd'hui, vous savez, de la survie, n'est-ce pas? C'est même si vous avez fait ces expériences très curieuses d'avoir été à proximité de la mort, tout proche, puis vous êtes revenu, heureusement, parce que vous pouvez dire. Alors vous êtes tout proche, mais vous n'avez pas eu l'expérience d'une âme séparée. Vous pouvez avoir cette expérience-là uniquement dans des rêves. Dans des rêves, oui, on peut avoir ça. C'est des très beaux rêves, ça, hein, de pouvoir vivre une âme séparée pendant un certain temps qui était merveilleux. Mais c'est un rêve, c'est pas une réalité. Je n'ai pas conscience de la séparation de l'âme et du corps. Donc, si j'ai une philosophie uniquement de la conscience, comme dans la phénoménologie de Merleau-Ponty, plus de distinction de l'âme et du corps. Je me souviens, je vous dis ça à titre d'exemple parce que c'est toujours intéressant, je me souviens que le professeur Thévenin m'avait averti. Tous mes étudiants, ils étaient quand même une vingtaine, ils étaient tous de Lausanne, tous mes étudiants sont merleau-pontiens et tous refusent la distinction de l'âme et du corps. Alors j'ai dit à Thévenin, moi je suis pas du tout d'accord. Ah oui, venez, vous allez leur en parler. Alors on a parlé pendant assez longtemps à ses étudiants, à ses étudiantes, et puis tout d'un coup, dans le langage, puisque ça arrive, je parle de l'âme et du corps, là je vois une étudiante, j'ai su après que c'était la fille de tel ou tel pasteur très important à Lausanne, une étudiante qui souriait, c'était très net. Alors je lui dis tout de suite, on était 20 dans le même salon, c'était facile à me comprendre, je lui dis, oui, vous n'acceptez pas la distinction de l'âme et du corps. Alors, je dis, non, j'accepte pas, ça signifie rien du tout pour moi l'âme, ça signifie rien du tout. Est-ce que vous faites une distinction entre dormir et faire de la philosophie? Elle n'a pas osé me répondre. Oui. Est-ce que pour vous, c'est différent de dormir et faire de la philosophie? Elle sentait très bien qu'elle était prise au piège. Elle n'a pas osé répondre. Alors voyez où on aboutit hein, comme réalisme de philosophie. Si la philosophie vous empêche de faire la distinction entre faire de la philosophie et dormir, Allez dormir, c'est beaucoup plus important, quoi. Au moins, il y a un réalisme là-dedans. Tandis que faire de la philosophie sans savoir si on fait les distinctions entre... Si en faisant de la philosophie, vous ne savez pas si vous dormez, c'était très ennuyeux, quand même. Hein. Bon, alors, j'ai discuté, puis je voyais qu'elle ne voulait pas répondre, elle ne voulait pas trop l'ennuyer. Puis, tout d'un coup, il est arrivé, n'est-ce pas, comme c'était dans un salon, il est arrivé sous le coup de minuit. Sous le coup de minuit, il est arrivé le thé et les biscuits. Alors, à ce moment-là, je n'ai rien dit. Puis, au bout de deux minutes, vous comprenez, on ne faisait plus de philosophie, on buvait le thé, on prenait le biscuit. Alors, je me suis retourné vers elle. Vous avez constaté que les biscuits et le thé, là, on ne fait plus beaucoup de philosophie. Est-ce que c'est la même chose pour vous de prendre le thé ou faire de la philosophie? Elle n'a pas voulu répondre. Parce qu'elle savait très bien que si on acceptait la distinction entre dormir et faire de la philosophie, j'aurais poussé. J'aurais dit, où est-ce que vous êtes le plus...
Philosophie du vivant, Père Philippe, 17 novembre.
Quand vous dormez ou quand vous faites de la philosophie? Alors elle est encore plus ennuyée. De dire qu'elle est plus elle-même quand elle fait de la philosophie qu'elle dort. Bon, il s'agit de comprendre la diversité de nos opérations vitales. Et comprendre l'unité, c'est moi. C'est toujours moi qui dort, c'est moi qui fais de la philosophie. C'est moi qui prends le thé. Bon, si on accepte cette diversité, qu'on accepte l'unité, au fond, vous acceptez la distinction de la vie du corps. Vous ne l'explicitez pas, peut-être pas, n'est-ce pas ? C'est justement le passage. Vous ne l'explicitez pas, mais au fond, vous acceptez. Dès que vous acceptez la diversité et l'unité, vous voyez tout de suite. Donc, premier contexte. Second contexte, c'était à Sion. Cathédrale dans la capitale du Valais, à Sion, c'était des notes au catéchétique qui venaient évidemment de Paris, et on avait dit oh, la distinction de l'âme et du corps est une distinction, c'est une distinction grecque. On ne disait pas que c'était saint Thomas, mais c'est une distinction grecque qu'il faut complètement supprimer aujourd'hui. Il ne faut surtout plus au catéchisme parler de la distinction de l'âme et du corps, il faut simplement parler de la conscience. Alors, dit cette distinction grecque. Or, ce n'est pas, dites-vous bien, quand vous entendrez ces choses-là, dites-vous bien que ce n'est pas une distinction grecque, c'est une distinction de tradition religieuse, de l'Inde. Breyer, qui est un très bon historien de la philosophie grecque, dit ouvertement que la distinction de l'âme et du corps n'est pas grecque. Il dit ça à propos quand il arrive à parler des stoïciens. Il dit les stoïciens sont revenus à la première tradition philosophique grecque. La distinction de l'âme et du corps que nous trouvons chez Platon, que nous trouvons chez Aristote, n'est pas une distinction grecque. Elle est une distinction de tradition de l'Inde. Là, c'est très intéressant. Alors aujourd'hui, vous voyez, c'est la tradition de l'Inde, pour être sûr que ça va passer dans le catéchisme. Donc, tradition de l'Inde, la distinction de l'âme et du corps, il faut bien, parce que c'est les grandes traditions religieuses. Les grandes traditions religieuses acceptent la distinction de l'âme et du corps, ça. Ça, c'est dans toutes les traditions religieuses, c'est impliqué dedans. Alors, il s'agit de la comprendre. Il ne s'agit pas de répéter, il s'agit de la comprendre. Donc, pour comprendre la distinction de l'âme et du corps, reprenez l'induction. Oui, parce que les traditions, on répète, hein, dans les traditions, on répète. On dit, ah oui, l'âme est immortelle, ça c'est très bien. L'âme est immortelle et puis le corps est mortel et corruptible. Très très bien, je constate ça en effet que le corps est corruptible. Je constate que le corps est corruptible. Que l'âme est immortelle, je ne l'ai pas constaté. Et non plus, je n'ai pas l'expérience. Il n'y avait que Lazare qui a eu l'expérience. Hein. Et comme l'écriture n'est pas un livre philosophique, on n'a pas demandé à Lazare son expérience. Si ça avait été un livre philosophique, on aurait demandé à Lazare qu'est-ce qu'il a vécu pendant ce temps-là. Ça serait intéressant, parce qu'il est vraiment mort. Selon l'écriture, il est vraiment mort, puisque Jésus va le ressusciter. Donc son âme, où est-ce qu'elle était? C'était pas dans le sépulcre. Lazare n'a jamais dit sa petite expérience. C'est très dommage, ça. C'est rare de rencontrer des ressuscités. ceux qui ont c'est vrai, c'est intéressant de savoir c'est des choses qu'on peut inventer des choses, mais c'est une expérience que nous n'avons pas. Je n'ai pas l'expérience de mon âme immortelle. Je n'ai pas cette expérience-là. Je n'ai pas l'expérience de la séparation de l'âme et du corps. Je n'ai pas l'expérience de ça. J'ai l'expérience médiatisée de la mort, mais je n'ai pas l'expérience directe de la mort. Je me suis aperçu qu'auprès de l'être que j'aimais, que subitement il n'était plus présent. J'ai une expérience médiatisée de la mort. C'est brutal de comprendre que soudainement, il y a le corps qui reste inerte. Que le corps n'est plus le corps de telle personne. On appelle le cadavre. Et Aristote dit que le cadavre, c'est un corps équivoque. C'est très précis. Hein. Ce n'est plus le corps de pierre. C'est le cadavre de pierre. Et le cadavre, c'est quelque chose qui est inhabité. Comme si de la maison était parti celui qui l'habitait. Alors, on peut découvrir ces choses-là, ça, au point de vue des traditions, mais ça ne me fait pas comprendre ce que c'est. Pour comprendre la distinction de l'âme et du corps, je suis obligé de reprendre l'induction philosophique de l'âme et du corps pour me donner l'intelligence de la chose. Alors, pour me donner l'intelligence de la chose, vous voyez, toute induction, hein, je rappelle en 2 minutes ce que c'est que l'induction, parce que c'est un procédé intellectuel qu'il faut comprendre. L'épagogé, hein, pour ceux qui aiment le grec. Alors, l'épagogé, c'est l'induction. L'induction, c'est un passage, comme dit Aristote, parce que c'est Aristote l'inventeur de l'épagogé. L'épagogé existe déjà chez Platon, mais à l'état très, très embryonnaire. C'est dans le timet que vous trouvez ça. Et ça existe. Donc, il ne faut pas dire... Aristote est bien celui qui le premier précise. C'est le passage de l'expérience à l'universel. Le passage de l'expérience au principe. Ou à la cause. Un principe et une cause. Un universel, je n'en ai pas l'expérience. Vous n'avez pas l'expérience de l'universel. C'est très troublant, moi. Vous n'avez pas l'expérience, vous ne pouvez pas toucher immédiatement l'universel. Vous avez l'expérience de mots qui ont une signification universelle. Ça oui. Quand je dis chat, c'est tous les chats de la Terre qui sont impliqués dedans. Donc c'est un mot qui a une signification universelle. Mais je ne touche pas l'universel. Je saisis un mot, c'est le mot chat dont j'ai expérience. Et je saisis que ce mot chat a une signification universelle. C'est mon intelligence qui saisit la signification universelle. À travers le mot, à travers l'expérience que j'ai du mot, je saisis la signification universelle. C'est l'intelligence seule qui saisit la signification universelle. Donc, il y a un passage d'une expérience à la signification universelle. Il y a le passage de l'expérience au principe. Seule l'intelligence, le nous, l'intelligence, atteint l'universel, atteint les principes et les causes. L'expérience a ses sensations liées à l'expérience. Alors il y a un passage de l'expérience à la saisie de l'universel et du principe. C'est ça l'épagogé, c'est ça l'induction. Vous voyez ? C'est pas une généralisation, tandis que l'induction baconienne, c'est une généralisation. Tandis que là, on passe d'un domaine immédiat à un domaine de qualité différente, vous voyez ? Il y a un passage de degrés différents de qualité, de l'expérience au principe. Ce n'est pas la même chose. Alors, cette épagogé, cette induction ici, nous partons de cette expérience vitale, de ces expériences vitales nombreuses et diverses, nous constatons qu'il y a une unité, et nous posons pourquoi cette unité. Toute épagogé se fait grâce à l'interrogation. Si je n'interroge pas, je ne peux pas faire d'induction. L'interrogation, c'est l'appétit de l'intelligence qui veut dépasser le sensible. C'est l'intelligence qui... L'interrogation, c'est l'arc qui se tend, si vous voulez, pour avoir un symbolisme de l'interrogation. C'est l'arc qui se tend et qui veut lancer la flèche pour aller, pour découvrir et pénétrer dans la réalité. Alors, quand je décris les données sensibles, je suis tout proche de ces données sensibles. Je veux pénétrer dedans, je veux saisir. Comment se fait-il que dans cette complexité d'opération vitale, il y a une unité ? Pourquoi cette unité ? Qu'est-ce que c'est que cette unité ? D'où vient cette unité ? Et je dis à ce moment-là, si je pense à toutes ces opérations vitales, à leur complexité et à leur unité, Je dis, il y a nécessairement une source qui explique cette unité dans cette diversité. Cette diversité, elle est liée à mon corps, c'est bien évident. Elle est liée à mon corps, elle est liée à quelque chose que je peux constater, à des organes multiples, à la diversité que vous avez de vos sens, hein, du toucher, de la vue, ça s'en voit très bien, la complexité de cette diversité, et en même temps, l'unité. Et alors, pourquoi cette unité? Il y a une source immanente, il y a une source immanente à cette complexité que j'appelle l'âme. Mon âme, c'est donc la source radicale de toutes mes opérations vitales. C'est la source radicale de toutes mes opérations vitales. C'est cette source. Cette source, de fait, se réalise à travers un corps. Je ne précise pas encore les rapports entre l'âme et le corps. Hein. Je saisis d'abord le point de vue de mon âme comme une source radicale qui s'exprime à travers cette unité. C'est à travers cette unité que je découvre qu'il y a nécessairement cette source première, une source radicale. Cette source radicale, elle va se réaliser à travers la complexité de mes opérations corporelles. Elle va se réaliser pour elle-même quand je pense, quand j'aime, il y a une intériorité. C'est une source d'intériorité, l'âme. C'est une source de mes diverses opérations et d'unité et d'intériorité. D'une intériorité qui dépasse tout l'aspect purement visible et sensible du corps. Il y a donc une richesse cachée. Alors c'est à ce moment-là que je peux me poser la question, est-ce que je peux avoir une connaissance immédiate de mon âme? Est-ce que je peux avoir une connaissance immédiate de mon âme? Hein, si je demandais ça à chacun d'entre vous, de dire ça et de décrire un peu la connaissance de votre âme que vous avez, ce serait très intéressant pour ça. Nous pouvons avoir une certaine connaissance de notre âme, une connaissance par connaturalité. Vous voyez, quand je réfléchis à ce que représente l'amour de la vérité. Quand je réfléchis à l'amour que j'ai pour quelqu'un, un amour spirituel, c'est quelque chose d'intérieur. On peut très bien réfléchir à ça, et puis extérieurement rester exactement le même, sans que personne ne puisse voir exactement à quoi je pense. Enfin, vous pouvez très bien penser à tout en suivant le cours, en faisant semblant de gratter, penser à tout à fait autre chose, ça va arriver, et délibérément penser à autre chose, pas seulement une distraction, le petit oiseau qui chante alors qu'il est distrait, n'est-ce pas, mais vraiment, délibérément penser à autre chose. C'est très curieux, ce pouvoir que nous avons, de pouvoir voyager comme nous voulons, aller là où nous sommes, où nous voulons, et s'intérioriser. Donc, dans cette intériorisation que nous avons, cette possibilité d'intériorisation que nous avons conscience de cette intériorité. Nous avons conscience que notre âme recherche une certaine vérité et que notre âme est capable non seulement de connaître, mais d'aimer. Nous avons une capacité en nous d'aimer. Et donc, quand je prends conscience de cette intériorité de l'âme, il y a une présence de mon intériorité. Et mon intériorité, c'est mon âme. C'est mon âme dans ses opérations. C'est pas mon âme en tant que principe, c'est mon âme dans ses opérations. Je saisis mon âme dans ses diverses opérations d'amour, dans mes opérations de recherche de la vérité, dans ses opérations d'intuition, d'inspiration. Je saisis mon âme au-dedans d'elle-même. Et il y a une certaine présence de l'âme. Et cette présence de l'âme, c'est une connaissance par connaturalité. Si j'aime mon âme m'apparaît. Ah, ça c'est très curieux. Si j'aime mon âme, on peut s'aimer soi-même. Il vaut mieux aimer son âme que son corps. Donc, si j'aime mon âme, c'est l'heure. C'est vous qui avez frappé, donc c'est l'amour de l'âme. Alors réfléchissez là-dessus, l'amour de l'âme. et que l'âme n'apparaît que quand on l'aime. Si on ne l'aime pas, l'âme disparaît. C'est très curieux, ça. L'âme est plus ou moins présente chez les individus. Et il y a une connaissance de l'âme plus ou moins forte. Il peut très bien se faire que quelqu'un n'ait jamais eu d'expérience de son âme. Elle est comme inhibée. Alors que s'il y a un amour de l'âme, l'âme apparaît. Vous savez, c'est curieux, c'est mystérieux, ça. C'est pour ça que je mets l'existence de l'âme, non pas à partir de là, parce que l'existence de l'âme à partir de l'âme, certains diraient, mais j'ai jamais eu cette expérience de mon âme. J'ai vu des personnes qui m'ont dit ça. Alors c'est des personnes qui, au fond, n'ont aucune vie intérieure. C'est uniquement le brassage de tas de choses, de tas d'histoires. La vie humaine consiste à brasser des tas d'histoires. Mais alors, aucun amour intérieur, aucune présence de à soi-même. La présence à soi-même, ça, c'est une chose très claire, c'est intéressant, c'est la présence à soi-même, la conscience de soi, la conscience d'avoir une belle âme. Hein.
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie.